Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa-Opondé.
Le chef adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, attendu aujourd'hui à Goma pour une cérémonie d'hommage au casque bleu tué la semaine dernière à Beni, Jean-Pierre Lacroix vient de Dar es Salaam où il a pris part hier aux hommages leur rendus par le gouvernement tanzanien. Au Sénat, le vote article par article du projet de la loi électorale renvoyé à ce vendredi, le président de la Chambre haute du Parlement propose la réécriture des articles qui fâchent. Bartovry, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, est notre invité ce matin à suivre dans la seconde partie de cette édition. Bonjour à tous. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix arrive ce matin à Goma en provenance de la Tanzanie. Hier, dans la capitale tanzanienne, Jean-Pierre Lacroix a pris part aux hommages rendus par le gouvernement tanzanien aux 14 casques bleus tués la semaine dernière dans la région de Beni. À Goma, il est prévu une autre cérémonie d'hommage en présence des diplomates et personnalités de la RDC. Depuis Goma, Gisèle Cage.
Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, accompagné du conseiller militaire en charge des opérations de maintien de la paix, sera tout à l'heure accueilli à l'aéroport de Goma par le chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidikou, le représentant adjoint de la mission de l'ONU en charge des opérations, David Chrisley, et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Dès après leur arrivée, la délégation va se diriger à l'hôpital niveau 3 de la MONUSCO pour une visite au casque bleu blessé lors de l'attaque jeudi contre la base des soldats de l'ONU sur l'axe Mbaouka Mango au niveau du pont Semouliki. À 13h30, sera la grande cérémonie en hommage au casque bleu tombé sur le champ de l'honneur. C'est au site de la MONUSCO de Lava Site, en présence des diplomates et autorités civiles et militaires congolaises. La cérémonie sera ponctuée par plusieurs interventions de certaines personnalités présentes. Jean-Pierre Lacroix passe la nuit à Goma. C'est demain samedi qu'il s'envole pour Kinshasa où il rencontre les hautes personnalités du pays. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
La Tanzanie demande l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat par des présumés rebelles ougandais de l'ADF de ses 14 soldats ayant servi sous le drapeau onusien en RDC. Son premier ministre Kassim Majaliwa l'a dit hier à Dar es Salaam lors de la cérémonie d'hommage aux soldats disparus dont les corps ont été rapatriés lundi. Nous espérons que les Nations Unies vont le faire rapidement, a-t-il ajouté en présence de Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Pour sa part, le général Venance Mabeyo, au chef de l'armée tanzanienne, a déclaré qu'un casque bleu tanzanien est toujours porté disparu et 44 autres sont soignés dans des hôpitaux. La neutralisation de l'ADF et la sécurisation des frontières entre la RDC et l'Ouganda étaient au centre d'une réunion hier après-midi entre les forces armées de ces deux pays à Kasindi-Lubirira. Cette localité congolaise est située à plus ou moins 90 km au nord-est de la ville de Beni et frontalière de l'Ouganda. Martial Papimukeba nous donne les détails.
Cette réunion réunit quelques officiers supérieurs et généraux des FRDC ainsi que ceux de l'armée ougandaise UPDF. La délégation de l'armée ougandaise est conduite par le brigadier Michael Kabango, commandant de la 5e division infanterie de l'armée ougandaise, et celle des FRDC est dirigée par le général Marcel Mbangu, commandant des opérations Sokola Nord. Selon des sources sécuritaires, les discussions tournent autour de la sécurisation des frontières entre la RDC et l'Ouganda ainsi que la problématique du groupe armé de l'ADF. D'après la même source, au cours de cette réunion, les FRDC et l'UPDF discutent pour avancer sur la planification et les débuts des opérations conjointes entre la RDC et l'Ouganda pour neutraliser l'ADF actif dans les territoires de Beni, une version jusque-là non encore confirmée ni démentie par des sources militaires. Signalons en fait que cette réunion entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise intervient pendant que de nouveaux renforts des FRDC en provenance de Kisangani sont déployés depuis mercredi dans la région de Beni. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
L'Église catholique appelle à des manifestations pacifiques pour réclamer l'application de l'accord du 31 décembre 2016 et le respect de dates contenues dans le calendrier électoral publié par la CENI. Et dans une correspondance de l'Église adressée à chaque paroisse, l'on recommande notamment de sonner la cloche des temples à une certaine heure, et cela devait débuter hier jeudi. Babel Pongo Massimango nous raconte ce qui s'est réellement passé sur terrain.
Sonner la cloche des églises à 18h ou à 21h, ainsi dans leur dernière correspondance, tout est dit de manière à éviter toute confusion d'heure. Il semble que le message n'ait pas été bien compris par certains. Résultat, la cloche a bel et bien sonné à la cathédrale Notre-Dame du Congo et dans plusieurs paroisses de la capitale, mais pas toujours à la même heure. Témoignage d'un Quinois contacté hier dans la soirée.
Je suis à Mandal, je suis pas très loin de l'église catholique Saint-Michel. La cloche a sonné exactement à 21h comme ça a été demandé. Et j'ai entendu les gens siffler. Moi aussi, je suis sorti pour siffler. Les gens sont sortis dans la rue. Ils criaient, ils sifflaient dehors. Ça a pris au moins 15 minutes. Hein.
Pendant ce temps, dans quelques autres paroisses, les choses n'ont pas marché comme attendu. C'est le cas de la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Ici, plusieurs personnes venues avec des sifflets pour manifester pacifiquement ont été déçues.
J'habite Matongé, justement à côté de la paroisse Saint-Joseph. On nous avait dit qu'à 21h, la cloche allait sonner. Nous sommes mobilisés, nous avons des sifflets en main. Depuis 20h40, on était déjà là dehors, mais nous sommes étonnés qu'à 21h, on a attendu jusqu'à maintenant, il est 21h30, aucun signe de la part de notre paroisse, nous sommes un peu déçus là.
Malgré cela, l'église catholique tient à mobiliser ses paroissiens et le reste de la population. Son appel à des manifestations pacifiques pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre du calendrier électoral demeure.
Au Sénat, l'examen et le vote article par article du projet de loi électorale a été renvoyé à la plénière de ce vendredi. Hier, la commission PAJ chargée du toilettage de ce texte n'a pas pu finaliser la correction en dépit des orientations données par le président du Sénat. Au cours de la plénière d'hier, Léon Kengo Adondo a proposé que les articles concernés par les divergences soient réécrits en vue de trouver un consensus. Michel Kifindangoy.
La divergence autour du seuil, de la caution et de la machine à voter continue à persister au niveau de la commission PAJ, malgré les propositions du président du Sénat. Léon Kengo Adondo, qui reconnaît l'importance des réformes du seuil électoral, estime qu'une option soit levée en tenant compte du consensus politique. Il propose à cet effet que le seuil soit élagué du projet de loi sous examen et renvoyé au prochain processus électoral, ou alors qu'il soit ramené à un pourcentage raisonnable, mais au niveau de la circonscription. À propos de la caution, le président du Sénat propose qu'elle soit progressive. Cependant, jusqu'à la fin de la journée, la commission PAJ n'a pas pu trouver un compromis sur ces points qui fâchent. L'examen et le vote article par article du projet de loi électorale est donc renvoyé à ce vendredi, avant la clôture de la session de septembre, le temps pour la commission de trouver un consensus acceptable par tous sur les dispositions concernant le seuil, la caution et la machine à voter. Des palais du peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
La Chambre haute du Parlement a plutôt voté hier jeudi la loi des finances pour l'exercice 2018 et la loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2016 en des mêmes termes que l'Assemblée nationale. Le budget 2018 est donc évalué à plus de 5 milliards de dollars américains, dont 4 milliards seront mobilisés sur le plan national et le reste viendra de l'extérieur. Pour le président de la commission PAJ, ce budget ne reflète pas les potentialités du pays et la population continue à croupir dans la misère, d'où la nécessité d'améliorer la gouvernance publique. Le sénateur Mabi Moulumba au micro de Michel Kifindangoy.
Le PIB de la RDC représente à l'heure actuelle, du moins ce qui est projeté, c'est 43 milliards de dollars. Ce qu'on amène en termes d'impôts, c'est un pourcentage de ce PIB. Alors, vous n'avez qu'à voir, si jamais on prenait 10% de compression fiscale, donc on devrait en fait mobiliser à peu près 4 milliards. À cela, il faut ajouter les ressources qu'apporte l'extérieur. Si on arrive à tout mobiliser, si c'est 10% de pression fiscale, ça représente à peu près 4 milliards. C'est-à-dire que ce pays a tant de potentialités. Alors pourquoi les gens sont dans cette situation de pauvreté? Ce qui signifie qu'ils n'arrivent pas à profiter des ressources de leur pays. Je vous ai donné l'exemple du Fonds monétaire, M. Melado, qui était ici. Il estime que ce que nous retirons du secteur minier ne représente qu'un septième de ce qu'on devrait faire. Alors maintenant, il faut entrer en détail pourquoi on n'arrive pas à mobiliser cela. Je pense que vous avez suivi le rapport sur la réduction des comptes. Cela voudrait dire que nous devons améliorer notre gouvernance.
Rendons-nous à l'Équateur. Le cadre de concertation de la société civile dénonce l'exploitation illégale et la corruption dans les ressources naturelles dans la province. Cette structure cite notamment le cas d'une cargaison de bois saisie en octobre dernier dans les territoires d'Inguindé pour non-respect de la loi en vigueur. La découverte a eu lieu lors d'une mission mixte administration forestière, partenaires et société civile sur les lieux. Mais deux mois après, ces grumes viennent d'être restituées à l'exploitant illégal sur ordre de la justice. Voilà pourquoi la société civile a formulé des recommandations à l'issue d'une journée de réflexion organisée à cet effet. Fabien Munguza, président du cadre de concertation de la société civile, énumère quelques-unes de ces recommandations au micro de Paul Richard Malingela.
Les cadres de concertation exigent que l'administration forestière provinciale et la DGRPEC prouvent l'existence des frais perçus par des documents attestant que cet exploitant pris en flagrance a suivi normalement les procédures légales lui permettant de couper ce bois. Que le cabinet du procureur général prouve à l'opinion les raisons qui l'ont poussé à restituer le bois ainsi saisi. Que le parquet général de Mbandaka se saisisse de ces dossiers de bois dans une concession déjà acquise par un autre exploitant. Que l'exécutif provincial s'investisse pour remettre la province de l'Équateur dans ses droits. Que l'Assemblée provinciale initie une mission mixte d'investigation sur des cas d'illégalité de ce genre sur toute l'étendue de la province forestière de l'Équateur. Que le Conseil supérieur de la magistrature se saisisse de ces dossiers afin d'établir les responsabilités et sanctionner les auteurs.
Nos tentatives de joindre les procureurs généraux de l'Équateur en vue d'obtenir sa réaction à ces sujets ont été vaines. La gestion des finances publiques de l'État renseigne pour le mois de novembre un excédent de 21 milliards de francs congolais. Les réserves de change à la Banque centrale du Congo ont augmenté de plus de 73 millions. Les recettes sont également en hausse, pour le mois sous examen. C'est ce que révèle la réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo qui a analysé mercredi la situation financière et économique du mois de novembre. Deux faits expliquent cette embellie, comme nous le dit Daniel Tambizoni.
L'accroissement des recettes pour le mois de novembre est favorisé par le paiement par les opérateurs économiques du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur bénéfices et profits. Ces recettes, dont la moyenne mensuelle est de près de 340 milliards de francs congolais, se sont situées pour le mois de novembre à plus de 585 milliards de francs. Les réserves de change qui se situent actuellement à 810 millions de dollars américains se sont confortées par l'embellie des prix du cuivre et du cobalt sur le marché international d'un côté et le rapatriement par les miniers des devises comme exige la réglementation de change d'autre part. On peut également lire dans le communiqué sanctionnant cette réunion des experts à la Banque centrale du Congo qu'à la fin du mois de novembre, l'inflation se situe à presque 56% contre un objectif de 7% en 2017. Cependant, le gouverneur de la Banque centrale se veut rassurant. Les derniers jours du mois de décembre ne sont pas à craindre. La discipline budgétaire au niveau des institutions devrait aider à maintenir la situation jusqu'au début de la nouvelle année, insiste le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo.
Et puis, dans le cadre de développement durable dans les milieux urbains et ruraux de la RDC, l'opérateur cellulaire Orange RDC lance Orange Énergie. Il s'agit d'un service innovant d'abonnement à l'énergie solaire à destination de la population congolaise. Le lancement officiel de ce nouveau projet a eu lieu hier à Kinshasa. D'après le directeur de ce projet, Hakim Moussimoua, il ne s'agit pas de remplacer le courant électrique, mais plutôt d'une alternative pour les familles afin de continuer à bénéficier de l'énergie au quotidien. Les détails avec Chakif Molima.
L'équipement est donné en location et les souscripteurs n'auront pas besoin de garanties ou de comptes bancaires pour s'en enquérir. C'est un service qui est accessible à tout abonné Orange. Il concerne non seulement les ménages, mais aussi les entreprises et autres professionnels. Mais de quoi est composé ce kit? Réponse du directeur projet, Hakim Moussimoua.
C'est un kit constitué d'un panneau solaire, d'une unité centrale, mais une unité centrale intelligente qui nous permet de monitorer tout ce que vous faites avec ces kits et des lampes avec abat-jour, d'une radio, des câbles USB pour charger 5 téléphones, d'une torche mobile et bien sûr d'un téléviseur.
Plusieurs abonnements sont disponibles dans le souci bien évidemment de s'adapter au rythme de vie de la population. C'est notamment des abonnements hebdomadaires, mensuels et même trimestriels via Orange Money. Le directeur projet nous donne ici les avantages et les interdits.
Vous pouvez utiliser les décodeurs pour pouvoir voir les chaînes câblées avec la même énergie. C'est la seule chose que nous pouvons autoriser Mais vous ne pouvez pas brancher d'autres accessoires. Vous ne pouvez pas brancher un fer. Vous ne pouvez surtout pas utiliser votre téléviseur.
Notons que les études sont en cours pour améliorer les services et offrir beaucoup d'autres avantages, d'autant plus que le groupe Orange est partenaire de la COP21 et milite pour l'utilisation responsable des ressources environnementales.
Actualité Afrique Monde.
Dans un rapport publié hier jeudi, Human Rights Watch dénonce de nombreux crimes sexuels souvent commis par les forces de l'ordre durant la longue période électorale que vient de connaître le Kenya. L'ONG a enquêté dans les bidonvilles de Nairobi et à Kisumu et Bungoma dans l'ouest du pays, c'est-à-dire dans les fiefs de l'opposition. Si la liste ne se veut pas exhaustive, elle témoigne de l'horreur des violences en période électorale dans le pays. Le groupe de travail spécial qui s'est formé à Abidjan après le scandale des migrants esclaves en Libye s'est réuni hier, jeudi, à Bruxelles. Il est composé de l'Union européenne, de l'Union africaine, du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR et de l'Organisation internationale des migrations OIM. L'Union européenne espère pouvoir rapatrier 15 000 migrants africains volontaires vers leur pays d'origine d'ici février prochain. En revanche, aucune solution concrète n'a pour le moment été évoquée en ce qui concerne les cas d'esclavage pointé récemment.